Chaque fois qu'on entend un écologiste aujourd'hui, c'est soit une insanité, soit une connerie.
Le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto, tout ça, c'est rien.
Furax, l'atelier qui traque la désinformation climatique dans les médias français.
L'arnaque de l'hystérie écologique.
Vous respectez plus vos chiottes que la planète.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Vous écoutez Radio Campus Paris et bienvenue sur les grandes ondes. On va s'intéresser aujourd'hui au thème de la désinformation climatique dans les médias français. Autour de moi, une table très bien remplie, composée de Rabab, Adèle, Éléonore, Jules et en réalisation Marion, Gaïa, Héloïse et Zoé qui cachaient. Et donc Marion et Zoé aussi qui organisent cet atelier, donc merci à elles. Nous avons comme invité aujourd'hui Luna Wemar. J'espère que je le prononce bien. Bienvenue sur le plateau. Luna, tu travailles pour une association française qui s'appelle Quota Climat et tu es responsable du plaidoyer européen. Les axes actuels de la structure s'articulent autour de la mobilisation citoyenne, les missions de plaidoyer et la production de données. Quota Climat s'attribue également une mission de sensibilisation du public et des médias aux questions de climat qui s'est ancrée dans la longue durée et non pas seulement pour la période électorale. Pour commencer, pouvez-vous expliquer le besoin qui se cachait derrière la création de Quota Climat ? Enfin, la raison pourquoi est-ce que l'association s'est créée ?
Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. L'idée derrière la création de Quota Climat, c'était une période assez spéciale, c'était en 2022, pendant la campagne présidentielle française, où on s'est rendu compte que globalement, le fait que les journalistes ne mettent pas le climat à l'agenda de leurs interviews, en gros, ne posaient pas de questions, ne poussaient pas les hommes et les femmes politiques à se positionner sur le sujet et à formuler des propositions ambitieuses et concrètes. Donc globalement, le sujet passait sous les radars. En fait, on s'est rendu compte du coup que les médias étaient un maillon invisible, mais de ce changement sociétal et de la transition vers laquelle on doit aller. Et l'association a été créée par Eva Morel, qui est maintenant secrétaire générale, et Anis Vernière. Et est donc partie de ce constat-là qu'il fallait mobiliser les médias pour parler du changement climatique, pour que les décideurs en parlent, pour que les entreprises s'en occupent, et ensuite pour que les citoyens soient sensibilisés.
En avril 2025, vous avez publié un rapport qui traite de la désinformation climatique à la radio et à la télévision française. Et on voulait savoir déjà quelle était la définition que vous donniez quand vous parlez de désinformation climatique.
Ouais, c'est une très bonne question, très importante, parce que aujourd'hui le mot des désinformations peut crisper, et à juste titre, parce que on est encore en démocratie, le mot de désinformation peut avoir des implications même judiciaires et très graves en politique, donc c'est important de définir les termes. Aujourd'hui, quand on parle de désinformation climatique, on ne parle pas d'un mauvais cadrage éditorial ou d'un désaccord politique sur certains sujets liés à l'environnement, donc par exemple l'énergie ou la mobilité, non. La désinformation climatique, c'est vraiment la négation du consensus scientifique sur la réalité, la dimension humaine, les conséquences ou certaines des solutions qu'on apporte au changement climatique tel qu'établi par le GIEC. C'est important de le savoir parce que quand on parle de désinformation, il faut savoir à quelle information on se réfère. Donc ça, c'est la première chose. Dans le rapport spécifiquement, on fait une différence assez claire entre les cas de mésinformation qu'il peut avoir dans les médias et les narratifs de désinformation. La différence, c'est qu'un cas de mésinformation, c'est une information trompeuse qui passe dans un média et on n'est pas en mesure d'identifier l'intentionnalité. Donc en gros, si la personne qui l'a prononcé voulait le faire pour tromper son auditeur ou ses auditeurs ou pas. Par ailleurs, quand on se rend compte qu'il y a plus de 8 cas avec le même narratif, donc un narratif, ça peut être par exemple les renouvelables, les énergies renouvelables coûtent trop cher. Si on rencontre plus de 8 cas, en fait, on le qualifie de narratif parce qu'on se rend compte que la répétition peut indiquer une certaine intentionnalité ou en tout cas une certaine ligne dans les médias. Et ce qui, en tout cas, crée... C'est Hannah Arendt qui l'a théorisé comme ça, le phénomène de la vérité illusoire, ça veut dire que quand on répète une certaine information, en fait, on commence à avoir cette illusion de vérité dans les perceptions. Et donc de ne plus la questionner.
Et alors, entre janvier et août 2025, il y a eu 529 cas de désinformation climatique détectés. Est-ce que ce chiffre t'a surprise ?
Oui. Oh, il faut le dire, c'est quand même frappant qu'aujourd'hui, les médias audiovisuels, alors parce que dans le périmètre de notre rapport, il faut juste arrêter là, on regarde les médias audiovisuel, donc ça veut dire TV, radio en France, sur leur programme d'information. Juste une petite parenthèse, en fait on s'arrête sur les médias traditionnels aujourd'hui, pas parce qu'on pense que les réseaux sociaux n'ont aucun rôle dans la fabrique de l'information, mais parce que les médias sont encore les plus gros bénéficiaires de la confiance de la population, première chose, et deuxième chose, de la confiance des décideurs. Donc en gros, les décideurs ne se désinforment pas sur TikTok, mais sur, quand ils regardent, je cite des chaînes LCI, qui lisent Le Figaro, par exemple, ou France Info, ça peut arriver aussi. Ce que ça veut dire, c'est que c'est en tout cas inquiétant de se rendre compte que les médias audiovisuels français, publics et privés, sont très perméables à des narratifs de désinformation. Donc en gros, à des fake news sur le climat. Il y a des exemples qui sont très forts. On a des représentants du parti de Donald Trump qui viennent questionner l'existence et la gravité du changement climatique en plateau. Et personne ne les contredit. Aujourd'hui, c'est quand même grave et ça brouille les pistes quant à la perception du réel et la perception de la gravité pour les citoyens. Et ensuite, ce qui nuit à l'envie d'agir, globalement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène de la désinformation, il est rampant aujourd'hui. Enfin, on sait que c'est vraiment, ça devient un défi sociétal. Il y a le World Economic Forum qui l'a identifié comme un défi global et stratégique. Donc, que le fait que les médias soient ciblés, ce n'est pas une surprise. Mais aujourd'hui, c'est un des seuls vecteurs d'information dans lequel on a encore assez confiance pour que ce soit encadré, et d'ailleurs sur lequel on a prise parce qu'ils sont soumis à une régulation, et donc pour lequel ce soit encadré et que les médias qui fassent ce travail de lutte contre la désinformation soient soient valorisés, et ceux qui ne le font pas soient responsabilisés pour qu'on reste sur un socle factuel sur lequel repose notre démocratie.
Et alors, justement, quels sont les médias qui alimentent le plus la désinformation ?
Alors, on a deux grands champions. C'est ce qu'on appelle les usual suspects de la désinformation climatique. On a Sud Radio et la chaîne CNews. Sur Sud Radio, il faut quand même entendre ce chiffre. On a établi, avec les données qu'on a pu récolter, que sur Sud Radio, il y avait un cas toutes les 40 minutes. Donc un cas de mésinformation climatique, toutes les 40 minutes d'information sur le changement climatique. Ça, c'est Sud Radio. Et sur CNews, un cas par heure. Donc ça vous laisse comprendre la prévalence de ces cas de mésinformation et donc la place que ça peut prendre aussi dans leur couverture sur le sujet climatique.
Et justement, quels sont les sujets peut-être de désinformation qui sont les plus fréquents ? Tu parlais tout à l'heure de mobilité et d'énergie.
Oui, en fait, c'est une donnée qui est très intéressante à avoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on produit de la donnée, c'est parce qu'on est face à un problème global et que si on n'a pas de la donnée précise, on ne sait pas où agir et comment agir. Donc en fait, le fait de savoir quels sont les sujets les plus ciblés et quels sont les narratifs, ça nous permet de savoir s'ils reviennent souvent, donc de savoir si on peut les anticiper. Et ensuite, de savoir sur quel sujet on doit le plus informer. Les citoyens, les acteurs politiques et économiques et les journalistes, pour qu'ils puissent se préparer. Donc, pour répondre à ta question, la grande partie des narratifs, je crois que c'est 70%, sont liés à l'énergie. Les grandes gagnantes de ce pactole sont les énergies renouvelables. Ensuite, on a la mobilité, qui est vachement touchée. Cette année, il y avait des grands thèmes dans l'actualité qui rythmaient ça, les ZFE, donc les zones à faible émission, qui ont été un grand débat politique. Par ailleurs, les débats avec les voitures thermiques et les voitures électriques. Et en troisième position, on a le rôle de la France dans le changement climatique global, qui est toujours un argument derrière lequel se cacher quand on ne veut rien faire.
Et alors, quels seraient les principaux intérêts ou motivations derrière la production de désinformation ou mésinformation climatique, justement ?
C'est une question qui est importante parce que je suis persuadée que pour se protéger collectivement de ce sujet, il faut comprendre d'où il vient et pourquoi il est fabriqué. Premièrement, peut-être par qui ? On identifie plus ou moins quatre grands architectes de la désinformation climatique qui ont des intérêts stratégiques ou opportunistes à soit de la produire, soit de la diffuser. Donc on a évidemment les géants de l'industrie fossile. Ça, c'est une surprise pour personne. En gros, leur modèle économique dépend de notre consommation et de l'extraction de produits fossiles. Donc l'idée, c'est de, en tout cas, conserver le status quo à ce niveau-là. Et on a les puissances étrangères hostiles, on peut comprendre la Chine et la Russie, qui mènent des campagnes de désinformation, parfois avec des intérêts économiques aussi. On sait que la Russie a des gros intérêts liés au gaz, mais par ailleurs, avec des intérêts aussi beaucoup plus stratégiques, qui sont de, en gros, fabriquer le doute et semer la discorde, en tout cas, augmenter la défiance des citoyens envers leurs institutions publiques. Pourquoi ? Parce que on ne se parle plus, on ne prend plus de décisions et donc on n'arrive plus à gouverner et non plus à voir quels sont les autres ennemis qui peuvent exister dans le champ mondial. Donc on en a déjà dit deux. Et il y en a deux autres qui sont quand même importants à avoir en tête, qui pour le coup les utilisent de manière plutôt opportuniste. Ce sont les forces d'extrême droite qui instrumentalisent les narratifs de désinformation climatique. On l'a beaucoup vu avec les ZFE, qui étaient souvent dépeintes comme antisociales, par exemple, pour des fins électorales, en gros, pour plaire à leur auditorat, parce que c'est une cible facile. En vrai, c'est un sujet tellement complexe, avec tellement d'arbitrage à faire que voilà. Et les derniers, ce sont ce qu'on appelle les big tech, et en fait, en gros, l'économie de l'attention. Si ça vous parle, c'est les réseaux sociaux. On peut parler de l'IA maintenant, mais les réseaux sociaux monétisent tout ce qui est viral. Aujourd'hui, la désinformation climatique en fait partie, notamment quand il s'agit d'événements climatiques extrêmes où toutes les excuses sont bonnes pour faire croire que ce n'est pas un problème lié au changement climatique, mais c'est lié aux immigrants, lié aux politiques de diversité comme ça a pu l'être en Californie, enfin les narratifs de désinformation qui ont pu circuler en Californie lors des incendies en janvier. Donc voilà, en fait ça c'est les quatre grands acteurs et donc tu comprends vite les intérêts qui agissent derrière. C'est vraiment le profit, tout simplement, ou fabriquer le doute et la discorde pour, en fait, garder le statu quo en place. Je pense que j'avais entendu dans un podcast, j'adore l'utiliser parce que je pense que c'est très parlant, une métaphore qui a été mise en place par Spinoza et en fait qui explique... C'est la métaphore de l'âne qui explique qu'un âne qui est assoiffé et affamé est à équidistance d'eau et de nourriture. Et en fait, parce qu'il doute trop, il meurt sur place. C'est ça que ça vise à faire, le doute. En fait, ça vise à nous clouer sur place parce que notre cerveau est incapable de prendre des décisions quand il doute et donc de ne pas agir. Voilà.
Tu as parlé de profit, de politique, on voit tout de suite donc le lien entre climat et dynamique de pouvoir. Et on voulait te demander quels sont pour toi les dangers plus ou moins évidents du fait de ne pas s'informer sur la désinformation climatique.
En tant que citoyen, en tant que journaliste.
Oui, tout à fait, en tant que citoyen avant.
Oh, avant tout. Alors moi, personnellement, et chez Coda Climat plus largement, on a pu l'écrire dans l'introduction de notre rapport, on a une... position qui est peut-être un peu différente d'une idée commune, mais en fait on se positionne sur des acteurs dans le débat public parce qu'ils ont une responsabilité et ils ont des devoirs d'honnêteté, de rigueur et de transparence de l'information. Personnellement, je suis persuadée que les citoyens ont énormément de préoccupations quotidiennes duquel se soucier. Et par ailleurs que la désinformation devient un sujet qui est tellement sophistiqué et qu'il sera de plus en plus avec le souci de l'intelligence artificielle qui jouera de plus en plus sur les images. Donc même en tant qu'expert, honnêtement, ça deviendra difficile de comprendre ce qu'est une fake news et ce qui ne l'est pas. Et donc l'idée est vraiment de mettre la responsabilité sur ceux qui en ont dans le débat public, qui ont un pouvoir et un devoir d'exemplarité. Et donc on parle des médias, on parle des acteurs politiques, économiques, et par ailleurs des journalistes qui ont un rôle à jouer dans la fabrique de l'information, non seulement pour réagir lorsque des narratifs de désinformation sont prononcés sur leur plateau, mais aussi pour s'acculturer sur ces sujets-là, pour être en mesure d'avoir un débat et qui soit rythmé par du contre-argumentaire si besoin et si un gros narratif ou une grosse fake news vient à passer et entamerait notre compréhension du sujet. Après, il faut... En fait, moi, je pense qu'on parle beaucoup de l'intégrité de l'information comme une sorte de Saint Graal. Les journalistes ne sont pas... Enfin, ont un travail qui est déjà extrêmement difficile dans un moment où les médias sont très précarisés. Donc évidemment, les responsabilités sont partagées. De faire de l'éducation aux médias, ça deviendra une priorité nationale, j'en suis sûre. Ça l'est déjà dans plein de pays comme la Suède et la Norvège qui avaient saisi la menace il y a longtemps. Par ailleurs, je pense qu'il y a des efforts, des grands efforts à faire, notamment en termes d'encadrement réglementaire de ces acteurs qui ont, du coup, comme je le disais, un devoir de partager une information qui soit honnête, fiable, transparente.
Tu nous as parlé donc de certains pays qui sont d'un côté du spectre, donc de l'engagement envers la désinformation climatique. Et je vais aller au tout l'autre bout du spectre en parlant du Brésil. C'est une des études de cas que vous avez dans votre rapport. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et surtout du lien entre désinformation climatique et démocratie?
Oui, bien sûr. Alors, je vais répondre en deux temps. Premièrement sur le Brésil et peut-être après sur le lien entre désinformation climatique et démocratie. Le Brésil, on s'y est intéressé notamment parce qu'on a des partenaires là-bas, notamment Lupa et Fala, qui sont des organisations partenaires locales. C'est important de le dire parce que on ne peut pas de France observer un pays et ses mécanismes de désinformation sans avoir des partenaires locaux. Et par ailleurs, c'est eux qui ont fact-checké à la main tous les cas qu'on a pu voir. Ça, c'est une première chose. Ce qui est intéressant, et c'est des conclusions préliminaires sur le Brésil, c'est que en gros, il y a un sujet d'invisibilisation des thématiques environnementales au Brésil qui fait que la désinformation est très peu présente. En fait, parce qu'on n'en parle pas, ce qu'on peut appeler aussi le phénomène de silenciation, parce qu'on n'en parle pas, on ne détecte pas des informations. Donc ça, c'est lié à d'autres problématiques qui sont liées au contexte économique, politique brésilien et où l'agro-business, par ailleurs, est très très puissant, ont des liens très étroits avec la politique mais aussi avec le système médiatique et qui font en sorte aujourd'hui de dépolitiser beaucoup les enjeux environnementaux et du coup de les faire passer sous le radar. Donc ça, c'est ce qu'on a pu trouver pour le Brésil et c'est du coup important de comprendre la désinformation climatique peut prendre place ou juste n'existe pas parce que juste l'environnement n'existe pas. Ensuite, sur le lien avec la démocratie, je pense qu'on peut répondre de deux manières différentes. En gros, la lutte contre la désinformation climatique, c'est vraiment une lutte pour l'intégrité de l'information généralement. Aujourd'hui, si on n'a plus de socle factuel sur lequel débattre, on n'arrivera plus à se parler, on n'arrivera plus à changer les choses, prendre de décisions, et ensuite on se ralliera autour d'une sorte de mythe, de soit l'homme ou la femme providentielle, qui peut amener vers une dérive autoritaire très rapidement, comme on peut le voir dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est en fait l'intégrité de l'information, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que la lutte contre la désinformation climatique importe. Par ailleurs, sur la désinformation climatique, c'est nous, on s'est concentré là-dessus parce que, premièrement, en fait, la véracité scientifique, donc le consensus scientifique sur le climat existe. Donc, c'est un sujet précis qui a une base véridique fiable, donc sur lequel on peut démontrer très rapidement ce qui est faux et ce qui ne l'est pas. Ce qui est plus compliqué sur d'autres sujets, comme pour l'immigration, par exemple, où il y a, en gros, il n'y a pas de consensus scientifique en termes de sciences dures. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un sujet emblématique qui permet de montrer, avec une approche systémique comme on déploie chez Cota Climat, c'est-à-dire quantitative, mais aussi donc avec des données, mais aussi au niveau de la loi et au niveau judiciaire, quand on a saisi l'ARCOM, par exemple, pour sanctionner ces news sur la désinformation climatique, et de niveau formation journaliste. En gros, tous ces échelons-là sont importants pour faire gagner une bataille sur l'intégrité de l'information. Et quand on verra que sur la désinformation climatique, c'est possible, eh ben, on arrivera sur d'autres sujets aussi.
Alors oui, tu viens de parler de l'ARCOM. En France, donc, on sait que c'est une autorité chargée de veiller au respect de la loi dans l'audiovisuel. Et est-ce que, selon toi, son action est suffisante pour réglementer et lutter contre la désinformation climatique ?
Alors, c'est une très bonne question. Oui et non. En fait, aujourd'hui, il faut reconnaître le rôle pionnier que l'ARCOM joue dans la régulation médiatique en France et surtout d'un point de vue européen. En gros, on se rend compte que l'ARCOM est la première, en fait, à l'échelle mondiale, mais du coup à l'échelle européenne, d'avoir prononcé la désinformation climatique comme une atteinte au droit à l'information. donc à avoir sanctionné une chaîne pour en avoir diffusé. Ça, il faut le reconnaître, c'est très important, et c'est une jurisprudence qui fait avancer et qui aussi, du coup, fait débattre dans les médias, qui fait reconnaître le problème aux citoyens. Première chose. Ensuite, évidemment, il y a des compétences. En fait, on pense que les compétences de l'ARCOM doivent être clarifiées sur le sujet. Notamment sur le sujet de l'information environnementale. C'est une des propositions de la PPL, donc proposition de loi, qu'on a co-rédigée avec l'Institut Rousseau, il y a 3 ans déjà, et qui est maintenant co-signée par plus de 80 députés de tous les bords, allant de jusqu'à Horizon, et qui est portée par le député Stéphane Delautrette. Et ça, c'est une des mesures qui est dans la loi, et qui est de renforcer le volet sur l'intégrité de l'information environnementale de l'ARCOM. Donc oui, il y a des choses à faire, clairement. Par ailleurs, on peut reconnaître quand même le progrès ou les évolutions de pensée que l'ARCOM peut avoir sur ce sujet-là. Et l'ingrédient clé, ça a vraiment été la donnée. Quand ils se sont rendus compte que c'était un sujet qui touchait tous les médias et qui augmentait dans le temps, ils ont commencé à réagir, on peut le saluer.
Et quel rôle vont avoir, selon toi, dans le futur, les journalistes dans cette lutte contre la désinformation climatique, et notamment ceux du service public? On sait que donc, c'est un bien commun, le service public. Mm-hmm. Quel rôle, selon toi, les journalistes et plus précisément le service public vont-ils avoir?
On peut même parler d'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important parce que la désinformation est présente aujourd'hui sur nos antennes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je pense vraiment que l'information de qualité subit la tragédie des communs. Donc, c'est-à-dire que tout le monde en veut, mais personne ne veut payer pour. Et aujourd'hui, c'est le grand problème, notamment dans les médias publics, où en fait, on se rend compte, notamment grâce à nos données, que les médias publics sont de facto beaucoup moins touchés par la désinformation, mais ont de moins en moins de moyens et en tout cas sont de plus en plus attaqués. Donc pour répondre à ta question sur le rôle des journalistes maintenant et dans le futur, il y a un rôle de prise de conscience de ces enjeux-là, évidemment, avec les moyens dont ils disposent. Donc là, je pense qu'il y a plus d'enjeux de leur donner des ressources, les protéger aussi, parce que les journalistes, à cause des réseaux sociaux, se font de plus en plus attaqués. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, de potentiellement, ça c'est plus largement dans une révolution journalistique ou médiatique plus large, c'est de prendre conscience potentiellement des lacunes médiatiques qui existent sur certains sujets. En fait, moi je suis persuadée que la désinformation, elle prospère aussi sur des émotions qui ne sont pas communiquées. Potentiellement la frustration, le mépris, la colère, la sensation de détachement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le montrent, les Français et les Françaises se sentent méprisés, déconnectés de la vie politique. Et il y a potentiellement une réflexion à mener sur la proximité et l'efficacité des médias à être des porte-voix citoyens et civiques jusqu'à du coup, la vie politique. Et je pense que c'est, en gros, cette grosse réflexion de fond, et par ailleurs, cette lutte au quotidien contre les narratifs de désinformation, mais qui demandent pour eux des outils de détection et du temps, en gros, globalement, pour pouvoir s'en protéger.
Et donc, pour toi, s'il devait avoir une action, une mesure prioritaire à avoir pour donc lutter, ce serait laquelle?
Une manière efficace de provoquer un débat, c'est de produire de la donnée, honnêtement. Si on pouvait avoir une donnée qui soit plus exhaustive sur la manière dont les médias couvrent les enjeux environnementaux, mais aussi dont la désinformation peut s'intégrer dans les réseaux sociaux, dans les modèles d'IA et ensuite dans les médias traditionnels, honnêtement, je pense que ça permettrait à tout le monde d'avoir un socle commun pour débattre ensuite de quelles sont les meilleures mesures à mettre en place. C'est une stratégie qui a été utilisée au Parlement européen par un député slovaque et qui a très bien marché sur les sols. Je te laisse finir. Potentiellement, tu voulais une mesure plus claire.
Non, ça m'allait. Mais en fait, finalement, c'est un peu déjà ce que vous faites avec Quota Climat. Donc, ce serait peut-être plus donner de l'ampleur, de visibilité à toutes ces données, etc.
Oui, alors L'Observatoire des médias sur l'écologie, par exemple, qui quantifie la couverture médiatique des enjeux environnementaux, elle existe, elle est soutenue par... elle est associée à un consortium qui l'a fondée, donc un consortium d'associations dont on fait partie, et elle est soutenue par l'ADEME. Par ailleurs, dans notre proposition de loi, de nouveau, on propose de le rattacher à l'ARCOM pour que ces données aient plus de poids et plus de crédibilité, de légitimité, et qu'ensuite les médias aussi soient tenus de les accepter, entre guillemets, et du coup d'améliorer leurs pratiques grâce à ça. Donc qu'ils soient une vraie boussole nationale, en gros. Donc moi, je dirais la production de données, parce que en fait, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'utiliser vraiment un enjeu quanti, donc des chiffres, pour ensuite permettre à des gens de débattre sur ce qu'ils considèrent être la priorité ou pas. Ensuite, honnêtement, renforcer le rôle de l'ARCOM, on en a parlé, très important. Aujourd'hui, les dérives, elles sont multiples. Et voilà, on a normalement une autorité de régulation nationale qui est indépendante et qui peut permettre d'être un garde-fou contre les dérives dans le débat. Donc, ça me paraît aussi très important.
Et justement, parmi vos modes d'action chez Quota Climat, vous utilisez des actions de plaidoyer, notamment au niveau européen, comme tu le fais, et notamment grâce à la production de données en amont. À qui est-ce que vous vous adressez dans ces actions de plaidoyer ?
À l'échelle européenne spécifiquement ?
Par exemple ?
À l'échelle européenne, on a un arc-en-ciel d'interlocuteurs, parce qu'il faut savoir que voilà, la gouvernance européenne est... Du coup, pour des très bonnes raisons, mais départagée entre le Parlement européen, entre la Commission européenne, qui a un rôle plus exécutif, entre le Conseil, qui est le rôle très politique avec les ministres et les chefs d'État, avec les instituts de recherche et les acteurs de la société civile. Donc, c'est à cet arc-en-ciel d'interlocuteurs qu'on parle et dont il faut convaincre du risque systémique que représente la désinformation climatique aujourd'hui. Risque systémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en termes de volume, ça veut dire qu'il en existe beaucoup. Il y a l'Observatoire des médias digitaux européens qui estimait que c'était le thème le plus ciblé par la désinformation en août 2025, première chose. Mais aussi en termes d'impact, ça veut dire des impacts démocratiques, ça veut dire des impacts stratégiques, ça veut dire des impacts sécuritaires, ça veut dire des impacts... énergétique et industriel aussi. Donc, c'est tout ça dont il faut convaincre aujourd'hui à beaucoup de gens. Mais en fait, il faut se rendre compte dans la théorie du changement, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, que, évidemment, les instances politiques et publiques ont un rôle énorme à jouer. Mais par ailleurs, d'autres maillons de la chaîne ont aussi un rôle clé. Ça veut dire les médias, ça veut dire les syndicats, les écoles, les instituts de recherche, voilà. Toutes ces personnes-là ont quelque chose à dire pour mettre le sujet à l'agenda avec une diversité de points de vue.
Si on en revient aux décideurs, au niveau européen, est-ce qu'ils vous écoutent ? Parce que face aux intérêts privés, est-ce que convaincre, aller leur parler, est-ce qu'en fait c'est une stratégie que vous considérez chez Quota Climat comme efficace ?
Oui, très. Alors, je peux vous dire, depuis 2 ans, ça a énormément changé. Et on voit que le rapport de force qu'on a pu avoir, qu'on a pu acquérir grâce à des stratégies de communication, grâce à des rapports, grâce à énormément de rencontres qui nous ont, en gros, donné un gage de crédibilité, ce rapport de force-là a changé. Donc oui, aujourd'hui, les forces politiques en présence, les médias, les syndicats, en tout cas, toutes les parties prenantes de ce monde-là nous écoutent, en tout cas nous rencontrent, nous écoute, je sais pas, potentiellement c'était un peu fort, mais en tout cas accepte d'en parler et donne du crédit au sujet. Donc ce qui est hyper intéressant, il y a 3 ans, beaucoup de gens regardaient Quota Climat en se posant la question, mais pourquoi ils prennent ce sujet si niche ? Ça va jamais percer le mur du son. Aujourd'hui, on se rend compte vraiment que c'est un maillon du problème. En fait, c'est un maillon de la chaîne causale qu'on avait oublié et sur lequel on peut jouer. Moi, je suis persuadée que les gens se sentent impuissants parce qu'ils ont l'impression d'être seuls et qu'il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, quand on se rend compte que les médias ont un vrai rôle et que chacun de nous a quelque chose à faire et que par ailleurs, des acteurs de la société civile peuvent changer le rapport de force et peuvent changer les choses, ça permet de regagner de l'espoir et ça nous donne aussi beaucoup de crédibilité par rapport à ces interlocuteurs-là.
Et pour finir, on avait une dernière question. On voulait savoir, personnellement, toi, comment est-ce que tu t'informes ?
Je m'informe, j'essaye de m'informer de plein de manières différentes, pour être hyper honnête. En fait, on parle souvent de renforcer la confiance dans les médias traditionnels, mais moi, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut renforcer la confiance et renforcer l'esprit critique. Pour ça... je pense qu'il est important, si on a le temps, de nouveau, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une injonction morale, mais si on a le temps de consulter un certain nombre de médias, c'est ce que je fais. Bon, pour le travail, Quota Climat fait une veille médiatique quotidienne, donc globalement, je le fais pour mon travail, mais j'aime bien me cultiver à travers d'autres vecteurs d'information, comme peuvent l'être les blogs, comme peuvent l'être les podcasts, comme peuvent l'être les news influencers, comme on appelle ça, qui deviennent des vecteurs d'information de plus en plus importants, comme peuvent être l'infotainment, comme des émissions comme Quotidien, et par ailleurs d'autres vecteurs d'information, comme des mèmes sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un spectre d'informationnel très important sur lesquels j'essaye de me baser et de comprendre un peu comment faire changer les choses et à quels acteurs parler.
Donc notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Luna Wemar d'avoir répondu à nos questions. Donc pour rappel, tu viens de Quota Climat, donc une ONG dont le but est, entre autres, de lutter contre la désinformation climatique. Et c'est à cette fin que vous avez rédigé le rapport dont on vient de parler et que l'on peut trouver sur le site de Quota Climat. Et pour conclure, Luna, je voulais te poser une dernière question. Et s'il y a un élément ou un message dont les auditeurs ils devraient se rappeler, que tu sembles qui est le plus important, ce serait quoi ?
On finit souvent nos vidéos chez Quota Climat en disant « Pour agir, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut être informé. » Voilà, c'est la clé que je laisserai pour partir.
Parfait. Merci beaucoup. Et merci également donc à Nathan, Rabab, Éléonore et Jules d'avoir préparé et mené cette interview. Et si la désinformation climatique est un sujet qui vous intéresse, nous aurons l'occasion de repasser sur les ondes de Radio Campus le 25 février, cette fois-ci à l'Académie du Climat. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est Rabat Bekaï au micro, et on vient d'écouter une interview de Luna Wemmer de l'association Quota Climat, qui nous a aussi expliqué comment elle s'informe.
Mais alors, comment on fait le commun des mortels ? On est parti en micro-trottoir Place des Vosges, un mercredi soir, pour demander aux passants comment ils s'informent et quels médias ils évitent.
Alors, je ne m'informe pas du tout, c'est mon mari qui s'informe plutôt sur des chaînes anglaises le matin et qui m'informe.
Bon, après, c'est un média super local, peut-être qu'on devrait aussi essayer. Et que dit ce couple qui passe ?
Par les réseaux sociaux, par la presse, par la télévision et la radio. Ouais.
Est-ce qu'il y a des médias que vous évitez, par exemple ? Est-ce que...
BFM, CNews. Mm-hmm.
Ici Bobo de Place des Vosges.
Moi, je m'informe pas mal par les réseaux sociaux et un petit peu par les médias grand public, mais surtout par les réseaux sociaux.
Est-ce que parmi ces médias, il y en a certains que vous évitez à tout prix ?
Tout ce qui est médias climato-sceptiques et d'extrême droite, on va dire, et même de droite en général.
Là, on est vraiment face à un pro. Pour tester ses skills, on termine leurs échanges par un petit vrai ou faux. Sur le fact suivant, depuis janvier, l'association Quota Climat a recensé 539 cas de désinformation climatique dans l'audiovisuel français. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Que répond-il ?
Ça me paraît peu. En fait, j'ai vu cette stat passer. Je ne saurais plus dire le chiffre exact. Mais je me souviens du tableau qui mentionnait justement les médias en question. Et ceux qu'on avait commis le plus. Et dans mes souvenirs, il y a quelques surprises.
Coup dur, je serais déçue aussi à sa place.
Non, je pense que c'est faux. Je pense qu'on est manipulé et que c'est faux. On nous ment plus que la réalité. Ça, c'est certain. On est manipulé même, je dirais. On n'habite pas Paris, on habite la campagne et on est très. On fait très attention à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on mange et même où on habite et à l'eau qu'on boit et tout ça.
C'est important de faire attention. Et l'éternel bon élève.
529, je fais un ratio, ça fait une centaine par mois, ça me paraît énorme. Surtout pour des médias qui, normalement, ont des vrais journalistes qui vérifient l'information.
Malheureusement, c'est vrai. CNews et Sud Radio, c'est un peu les deux champions. C'est souvent des petites erreurs, mais qui se faufilent très vite.
La honte pour l'audiovisuel français. En plus, tout le monde a l'air de savoir qu'on n'arrête pas de se tromper. Mais bon, une dernière réponse nous rassure. Peut-être qu'en fait, on est tous stogés à la même enseigne.
Peut-être que c'est vrai, moi je m'en doute pas.
C'est un peu pareil au Brésil. Les informations sur le climat, sur les médias, c'est quelque chose qui n'est pas trop dans les médias. Et même le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de gauche, qui est très aimé par la population, il cache un peu les informations. C'est pas qu'il cache, mais il aide beaucoup les entreprises qui exploitent l'Amazonie, par exemple, et ça ne s'est pas montré dans les médias, parce qu'il est très populaire.
De toute façon, dans 30 ans, il fera aussi chaud à Paris qu'à Rio, autant commencer à s'habituer aux médias. Moi, je préfère déjà mon déménagement. Sur le trottoir d'en face, Hubert, Nathan et Jules harcèlent aussi les passants pour savoir comment ils s'informent. On leur passe le micro.
Merci. Alors, malgré un horaire peu idéal, on allait interroger les Parisiens après leur journée de travail pour comprendre la façon dont ils s'informent et ce qu'ils pensent des médias. Place des Vosges, Nathan et Hubert ont commencé par rencontrer deux amies américaines, dont une journaliste qui, on peut le dire, est très traditionnelle dans sa façon de consommer l'information et sa vision des médias. Attention, alerte aux boomers.
Ça dépend d'où ça vient. Si ça vient d'un influenceur, ça veut dire que c'est pas du journaliste imbiaisé. Si ça vient d'une entreprise où ils ont des cours en éthique, c'est mieux.
Quelques mètres plus loin, ils ont eu la chance, pour ne pas dire le privilège, de parler avec Gérard, actionnaire dans un groupe médiatique qui nous éclaire sur le fonctionnement de cette industrie.
Alors je vais te dire, je suis mal placé, je suis actionnaire dans un groupe de presse. Tu veux que je te dise quoi ?
Votre réponse franche, sincère.
Écoute, du moment qu'il y a du pognon dans l'air... Du moment qu'il y a du pognon dans l'air, c'est sûr qu'il y a certainement du business. Par business, j'entends par là, ben écoute, tu me files un petit billet et puis c'est bon. T'as enregistré ? Oui, alors maintenant, mais là, c'est en direct, ça ?
La question qu'on vous pose, c'est quelle est la confiance que vous accordez aux médias ?
Ah, TF2, la presse écrite, ça existe toujours, ça.
Enfin, avant de rentrer, mes collègues ont échangé avec des résidents belges qui, on va l'entendre, soulèvent un point très intéressant sur le rapport entre info et anxiété.
Trump. Ben, il était déjà là avant, on n'en parlait pas, il y avait déjà autant de conneries. Donc, c'est peut-être pas la peine de rabâcher tous les jours la même chose aux gens. Il se passe plein de choses bien, il faut en parler aussi. Je ne regarde plus. Pour la simple bonne raison que c'est 55 minutes de stress pour 5 minutes de chouette chance. Donc ça, je ne regarde plus. Ça fait longtemps que je le fais.
principalement par la radio et internet sur des sites que bon, je sais qu'ils sont fiables. Donc,
Maintenant, je vous laisse en compagnie d'Adèle pour la suite des chroniques.
Au croisement entre le boulevard Beaumarchais et la rue du Pas de la Mule, Héloïse et moi sommes allés demander aux passants, souvent pressés, ce qu'ils pensaient du traitement médiatique des sujets environnementaux et climatiques dans les médias.
La question environnementale est plutôt bien traitée dans la presse écrite, plus rarement à la télévision, sauf sur Arte par exemple, ou sur la 5, et sinon à la radio, dans les chaînes, les canaux comme France Culture, oui c'est bien je trouve. Pour moi ça me suffit en tout cas.
Si le traitement de ces enjeux est suffisant pour certains, pour d'autres, ce traitement est très imparfait, et ce, de plusieurs manières.
Je pense qu'on en parle beaucoup, mais le vrai sujet, il me semble souvent qu'il est un peu faussé. Et tout est très raconté pour que ce soit très anxiogène tout le temps. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont bien, enfin qui sont faits, mais ils ne sont pas assez mis en valeur. Et c'est souvent le côté hyper anxiogène qui reprend le dessus. On va tous mourir dans 2 ans. Enfin.
Non, ils sont sous-représentés, quel que soit le média. Et on ne nous donne pas d'informations qui nous parlent, on ne nous donne que des chiffres qui n'ont absolument aucun sens. Et du coup, on n'y voit pas forcément très clair, et moi non plus, et moi le premier. Et je suis loin d'être irréprochable, donc c'est dommage de ne pas en entendre plus parler de manière neutre.
Je sais pas, on décrédibilise un peu et la cause et les gens qui la défendent, on les voit un peu comme des... Ouais, un peu comme des mecs qui se préoccupent d'un truc, on s'en fout un peu, genre.
Pour ce dernier, c'est un sujet qui est très politisé.
De ce que j'ai compris, c'est un peu de droite. Hein, il y a pas mal de médias qui sont rachetés par des lobbies, par des gens. Et à droite, on n'est pas très... Enfin, quand je dis « on », je parle pas de moi. À droite, ils sont pas très climat-friendly.
Climat-friendly, peut-être un mantra que devraient adopter plus de médias ?
Furax. L'atelier qui traque la désinformation climatique dans les médias français sur Radio Campus Paris 93.9 FM.